BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
C'est votre ventilateur rafraîchissant de l'après-midi. On essaie de ventiler, en effet, vos performances et vos portefeuilles boursiers, vous aider à les diversifier. Et en fil rouge, il est là, Antoine Larigauderie. Rebonjour Antoine.
Rebonjour Guillaume.
Votre mot du jour.
Fébrilité, hein. Beaucoup de fébrilité sur les marchés. Malgré tout, le CAC 40 garde le cap, bel et bien, plus 0,68% à 8442 points. Alors, on est un petit ton en dessous de la moyenne des places européennes, avec notamment plus 0,9% compteur pour l'Eurostock 50, plus 1,23% pour le DAX à Francfort. Mais voilà, on a une hausse assez notable, alors que du côté de Wall Street, on était promis à une hausse vraiment, vraiment sympathique avec les résultats, les perspectives de Micron Technologies. C'est plus compliqué que prévu. Et il y a beaucoup de volatilité sur la tech, sur le Bitcoin. Et le Nasdaq, lui, perd 0,3%, alors même que le Dow Jones gagne 1,17%.
On reviendra sur la publication de Micron, sur les quelques bonnes nouvelles du jour. On en a quelques-unes quand même. La croissance américaine révisée à la hausse pour le premier trimestre et les banques américaines qui ont réussi haut la main leur stress test, avec en plus, enfin, c'était des stress tests qui émettaient l'hypothèse d'une forte récession quand même, qui ferait monter cette récession. Le chômage américain à 10%. Vous voyez l'ampleur de la récession sur laquelle les banques américaines ont été testées. Et bien, ils ont passé ces stress tests sans aucun problème. On en parlera aussi. Est-ce que c'est on va dire un gage pour la suite, on abordera cette question bien évidemment. Et les cours du pétrole, alors qui remontent un peu cet après-midi après avoir bien baissé, les cours ont touché même tout à l'heure des plus bas d'avant la guerre. On a retrouvé des niveaux d'avant la guerre. Voilà, sur les cours du pétrole, ça va très vite, hein, cette baisse des cours. Est-ce qu'on va pouvoir continuer d'en profiter durablement, ou est-ce que le rebond pointe déjà à l'horizon? C'est une question qu'on se pose beaucoup ici en Europe, parce que c'est vrai que l'économie européenne est plus exposée que l'économie américaine à ces cours du pétrole. On essaiera d'anticiper. BFM Bourse au cœur de toutes ces batailles, et BFM Business sur l'ensemble des grandes actualités du moment. À suivre aussi l'alerte rouge de la Cour des comptes sur les finances publiques. La situation budgétaire française est alarmante, dit la Cour des comptes. La réduction du déficit public risque de tourner court en raison de la guerre au Moyen-Orient. D'après les dernières prévisions de la Cour des comptes, le gouvernement anticipe toujours une croissance de 0,9% en 2026 et une inflation à 1,9%. La situation sanitaire, justement, en France, la canicule, le plan Orsan 3 a été activé dans les hôpitaux. On compte 4 fois plus de passages dans les hôpitaux que d'habitude en ce moment. 2 nouveaux réacteurs nucléaires, par ailleurs, ont été mis à l'arrêt ici en France. Quant à SNCF Voyageurs, eh bien, le groupe dit avoir supprimé en moyenne 10% de ses trains aujourd'hui. Et puis la justice française, elle ordonne à Total Energy d'intégrer d'ici 6 mois les émissions carbone de ses clients dans son plan de vigilance. Total Energy était accusée par des ONG et la ville de Paris de manquer à ses obligations en termes de risque climatique. Plus de débats là-dessus et d'analyses, ce sera dans le 18-19, Edwige Chevrillon. D'ici là, on est avec vous, à vos côtés, dans votre camp BFM Bourse. Bienvenue à tous.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Nos deux experts du club ce soir pour anticiper l'avenir des marchés. Laurent Chauderge pour BDL Capital Management. Bonjour Laurent, ravi de vous retrouver.
Bonjour Guillaume.
Et John Plassard, merci aussi à vous John d'avoir répondu à l'appel de BFM Bourse, associé responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion. Bonsoir John. Ils sont pas mal, ils sont vraiment pas mal les marchés là. On va parler de la tech dans un instant, mais Laurent, on a un CAC encore en hausse ce soir de 0,6%. Bon, S&P qui gagne encore 0,3%. On a le sentiment que c'est une avalanche de bonnes nouvelles en ce moment. Le PIB américain du premier trimestre a été, Laurent, révisé à la hausse. Les banques américaines ont réussi haut la main leur stress test. On en parlait il y a un instant. Micron publie 20% au-dessus des attentes. Le titre gagne 10% du coup, la Micron. Est-ce qu'être pessimiste pour la suite, quelque part, c'est faire un déni de la réalité, là, Laurent, d'après vous?
Je pense que la réouverture du Détroit change un petit peu la donne, notamment pour l'Europe, je trouve. Et on repart un petit peu sur ce qu'on avait en début d'année, à savoir une reprise qui devrait se dessiner suite à des taux qui sont quand même plus bas. Et surtout, cette crainte de taux qui remonte fortement, je pense, est apaisée avec ce détroit, avec le fait que le prix du pétrole baisse aussi. Donc, c'est pas étonnant. Et effectivement, nous sommes assez positifs sur les marchés actions, modulo. Effectivement, toute la thématique IA qui, elle, nous paraît peut-être invitée à une certaine vigilance.
Oui, mais donc, on en déduit que pour vous, les marchés actions pourraient progresser, offrir un chemin positif, même si la tech ou l'IA, en tout cas, venait à consolider. C'est ça le scénario, c'est qu'on aurait des marchés qui, malgré tout, progresseraient, Laurent?
Oui, parce que si l'IA venait à consolider, je pense qu'il y aurait une rotation sectorielle. L'IA et l'euphorie autour de l'IA créent des effets d'éviction majeurs. Et vous avez des secteurs, des pans entiers de l'économie qui sont délaissés, qui ont été vendus pour financer l'IA, qui sont sur des valorisations qu'on n'a pas vues depuis 10-15 ans. Donc s'il y a une rotation, le plus probable, c'est que ces secteurs en profitent.
Alors, vous nous direz lesquels, effectivement. Est-ce que ce scénario, vous l'épousez, John? Est-ce qu'effectivement, si on avait une consolidation à venir dans la tech, le reste du marché pourrait malgré tout bien s'en sortir, et les indices avec?
Oui, tout à fait. On l'a vu sur plusieurs indices et dans plusieurs occasions, à plusieurs occasions cette année, où on a eu, par exemple, en début d'année, 2 mois où la tech avait baissé, mais ça n'avait pas empêché le S&P 500 ou même le Dow Jones de revenir. À l'heure où on parle, le Dow Jones, donc la vieille économie, comme on l'appelait, eh bien, touche un plus haut niveau historique. Donc, on voit qu'il y a vraiment des changements qui sont en train de s'opérer et que c'est assez sain, je dirais, pour le marché. Mais il y a une deuxième des choses qu'il faut absolument rappeler ici, c'est qu'on est dans une situation où si on regarde eh bien, la Réserve fédérale américaine, qui est quand même garante du dollar et des taux d'intérêt, eh bien, on voit ici que le discours du nouveau président de la Fed, qui a aussi été mis en place par Donald Trump, eh bien, change quand même pas mal la donne. C'est-à-dire qu'il nous raconte, et on ne va pas refaire le discours, mais il nous raconte simplement que les taux vont rester élevés, vous savez, higher for longer, hein, ils vont rester élevés longtemps. Donc, en fait, pour revenir à votre question de départ sur eh bien, la très bonne tenue de l'économie américaine, eh bien, pour l'instant, la Réserve fédérale américaine n'a pas vraiment besoin de baisser ses taux. Et en fait, lorsqu'on parle de ça, eh bien, on peut parler de certains secteurs sensibles aux taux qui pourraient, à un moment ou à un autre, eh bien, être rattrapés par des rendements plus élevés sur les treasuries, par exemple. Et aujourd'hui, la tech qui était attendue, vous le disiez juste avant, en hausse de plus de 2% pour le Nasdaq, eh bien, on voit que ça s'est dégonflé. On est même dans la zone rouge parce qu'en fait, à un moment ou à un autre, on se rend compte effectivement que les résultats sont extraordinaires, mais à un moment ou à un autre, eh bien, ça peut se payer si les taux d'intérêt restent élevés beaucoup plus longtemps. Et les statistiques aujourd'hui, eh bien, vont dans ce sens.
Oui, on a eu des chiffres effectivement d'inflation à des plus hauts de 2023. Alors c'est pas une surprise, hein, mais on est au-delà des 4% pour l'indice PCE. C'est quand même largement au-delà des objectifs de la Fed. Du coup, le scénario, c'est plutôt une hausse qu'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré la super publique Micron sur laquelle on va revenir, mais le Nasdaq recule. Le Nasdaq recule. Les hyperscalers, notamment Microsoft, Apple, Alphabet, Meta, reculent en moyenne d'1 à 2%. Vous faites directement le lien avec les perspectives monétaires, John.
Oui, en tout cas, en partie. Vous savez, on parle toujours des baisses. C'est la psychologie humaine. Hein, on parle toujours des baisses et on parle rarement des hausses. Et en fait, vous le disiez avant, on est dans une situation où les valeurs comme Micron, Nvidia, je ne vais pas le refaire, mais ont connu des performances extraordinaires. Alors pourquoi aujourd'hui certaines de ces valeurs baissent, ben, vous avez des investisseurs qui se disent ben, « Pourquoi est-ce que je vais prendre le risque avec des taux qui vont rester élevés pourquoi je ne prendrais pas un peu de bénéfice ?» Même malgré le fait que les résultats et les perspectives sont extraordinaires dans l'intelligence artificielle, on a eu la preuve avec Micron. Donc il y a vraiment, qu'on le veuille ou non, avec ces perspectives économiques très fortes et la perspective que les taux ne vont pas baisser, eh bien, un lien direct. Et vous savez, lorsqu'on voit les futurs sur le Nasdaq ont commencé à baisser juste après la publication de la révision de la croissance américaine à la hausse. Hein, on le rappelle, on attendait 1,6%. On est passé à 2,1% et c'est la dernière révision. Donc, c'est celle qui va être marquée dans le mur ou dans le dur. Et c'est ici où, effectivement, on revient sur certains fondamentaux, qu'on le veuille ou non, et ça ne remet pas du tout en question l'intelligence artificielle et le ciel et son avenir, mais peut-être le choix de certaines valeurs, le choix de certains secteurs pour la deuxième partie de l'année. Et j'en veux pour preuve, si on regarde aujourd'hui, un des secteurs qui fonctionne très bien, c'est le secteur de la pharma. Et donc, effectivement, c'est pas spécialement lié à la bonne performance de Micron.
C'est intéressant parce que on a des super indicateurs ou des bons indicateurs américains aujourd'hui. La croissance américaine révisée à la hausse, effectivement. Et vous nous dites que plus les indicateurs seront bons et plus effectivement on pourrait voir tout un pan de l'économie américaine, toutes ces valeurs, ces secteurs en retard, mal aimés, ignorés, parfois méprisés, en profiter. Le Dow Jones la gagne 0,9%, c'est des trois indices américains celui qui progresse le plus. Et à l'inverse, la tech, elle, en souffrir parce que les investisseurs se diront bah, l'économie va tellement bien et ça profite donc à ces valeurs traditionnelles que la Fed n'aura pas besoin de baisser ses taux et donc la tech ne bénéficiera pas de baisse de taux. Vous le regardez aussi comme ça, le mouvement à venir de rotation qui est déjà en cours, mais qui pourrait se poursuivre au deuxième semestre, Laurent ?
Oui, je pense qu'il y a effectivement les différents phénomènes qui se mettent en place pour qu'il y ait potentiellement une rotation. Je pense que ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que lors du conflit au Moyen-Orient, il y a eu ces craintes sur une récession qui pourrait venir. Et donc, il y a eu un mouvement naturel qui était de se dire « il faut que je me protège contre cette récession potentielle ». Et donc, le plus simple à faire, c'est d'acheter tout le segment IA, puisque on sait qu'il y a beaucoup de croissance et quel que soit finalement le PIB final 2026, il y aura eu de la croissance. Donc, ça a beaucoup bénéficié à l'IA et le rallye hein, depuis le mois de mars a beaucoup été tiré par ça. Maintenant que on passe à l'étape suivante, on réouvre le détroit, le conflit est derrière nous, le risque de récession diminue. Et donc, on peut regarder de nouveau l'ensemble du marché et se dire finalement tous ces secteurs qui ont servi de financement pour acheter l'IA devraient de revenir intéressants. Et donc John l'a mentionné dans la santé notamment, mais nous on partage cet avis-là. On a dans nos investissements, dans nos portefeuilles hein, chez BDL, deux segments qu'on a beaucoup augmenté ces 12-18 derniers mois, c'est un la santé et principalement les équipements médicaux. Et là vous avez un secteur qui en moyenne hein, avait à peu près 50% de prime de valorisation par rapport au marché sur les 20 dernières années. Vous êtes seulement à 5% de prime aujourd'hui. Et on a aussi augmenté la consommation courante, donc tout ce qui est alimentation, boisson, etc. Là encore, vous avez des entreprises leaders mondiaux dans leur marché que vous achetez à des valorisations que vous n'avez pas vues depuis 15 ans. Donc cet effet d'éviction, c'est à mon avis la vraie opportunité aujourd'hui, en Europe notamment.
Oui, et justement, entre Wall Street et l'Europe, qu'est-ce qu'il faut privilégier, en tout cas faire évoluer plus positivement que par le passé? Plutôt l'Europe, quand même, avec la baisse des cours du pétrole qui porte les marchés européens, ou plutôt Wall Street qui, bah, du point de vue de l'investisseur européen, gagne en valeur avec cette forte hausse du dollar face à l'euro? C'est quand même spectaculaire, la remontée du dollar face à l'euro, ça valorise les portefeuilles exposés à Wall Street. Qu'est-ce qu'il faut choisir, du coup? Pas évident, l'Europe ou plutôt Wall Street parce qu'il y a cette hausse du dollar? Laurent?
Alors, c'est vrai, mais ça fait, n'oubliez pas que ça bénéficie aussi aux exportateurs européens, le dollar qui augmente hein, quand vous transférez vos profits en Europe. Et je pense que l'Europe a beaucoup souffert hein, du conflit au Moyen-Orient. Rappelez-vous, le début d'année, c'était « il faut privilégier l'Europe, la BCE a baissé ses taux plus tôt que la Fed, l'économie européenne va en profiter, notamment le secteur de la construction, et n'oublions pas ce plan allemand de 1000 milliards qui va être déboursé pendant toute l'année. » On a oublié un petit peu ça avec le Moyen-Orient parce que tout d'un coup, les prix de l'énergie ont monté. La région la plus fragile, c'est l'Europe vis-à-vis de ce sujet-là. Donc, on se remet aux États-Unis. Et c'était le cas pour avoir vu beaucoup de sections de fonds dans les deux premières semaines du conflit au Moyen-Orient. La plupart avaient commencé l'année sur Pondéreur Europe et étaient repassés sur les US. Bon, maintenant, on revient sur le scénario initial de début d'année. Donc, je pense que les drapeaux s'alignent, les étoiles s'alignent pour que l'Europe puisse faire une deuxième partie d'année qui soit potentiellement meilleure que les États-Unis, d'autant plus si, effectivement, l'IA se met un petit peu à consolider. C'est un sujet qui est plus lié aux États-Unis qu'à l'Europe.
John, plutôt l'Europe pour la suite de l'année, pour le deuxième semestre, ou plutôt les États-Unis, notamment si le dollar continue de s'apprécier, ce qui valorise les portefeuilles exposés à Wall Street?
Bah, écoutez, ce que je vais vous dire, c'est que, à mon avis, il faut bénéficier. Il faut toujours être sur la tech et les leaders qui sont aux États-Unis, à part certaines comme SAP et ASML, bien évidemment. Mais d'un autre côté, vous avez certains secteurs en Europe qui ont été littéralement massacrés. Alors, je peux parler évidemment du secteur automobile. Le secteur automobile allemand, on a déjà assez parlé ensemble avec l'arrivée des véhicules électrique chinois, la concurrence qu'on a un peu partout. Et en fait, on est dans une situation où il est potentiellement assez intéressant de revenir sur certaines valeurs industrielles européennes qui bénéficient d'une baisse du prix du baril de pétrole, comme vous l'avez dit. Ces entreprises pourront potentiellement garder, privilégier et conserver leur marge. Et d'un autre côté, bien évidemment, c'est une bonne diversification. Vous parliez avant des secteurs qui avaient été et des valeurs qui avaient été les plus malmenées, ben c'est peut-être là où il faut aller chercher un petit peu de d'alpha, comme on dit, tout en gardant un pied sur la tech américaine, parce que je ne pense pas que ce soit la fin du cycle sur l'AI. Je pense qu'on est dans un super cycle et comme on l'a vu sur certaines révolutions industrielles, parce que l'AI, c'est une révolution industrielle. Mm-hmm. Et donc, je garderai le pied sur les deux. C'est pas que je veux pas répondre à votre question, Guillaume, mais je pense qu'il faut vraiment avoir son portefeuille diversifié en deuxième partie d'année, parce qu'il y aura pas mal de volatilité.
Oui, peut-être encore, on verra des hausses de taux de la BCE, et puis pourquoi pas une hausse de taux de la Fed d'ici la fin de l'année. Alors, vous le disiez, super cycle sur l'IA, qui pourrait encore entraîner des hausses, même si à un moment, une rotation finira, et commence d'ailleurs en ce moment à poindre. Micron a publié ses résultats. On peut rappeler les chiffres quand même. Des bénéfices multipliés par 15, John, sur un an, Micron. Alors, on n'arrête pas de dire, ce titre monte trop vite. Sur un an, il a fait x9. Oui, mais les bénéfices, eux, ont fait x15. Ça veut dire que ce titre doit continuer de progresser. Enfin, il est logique de voir des fusées pareilles et on se dit que à un moment, forcément, il y aura un crash quand le cycle va se retourner ou au contraire, ça peut continuer. Il faut y aller, puis les yeux fermés, allons-y, quoi, tous. John.
Non, ça peut continuer. On a vu, c'est assez évident que c'était les résultats des entreprises qui tiraient à la hausse ou à la baisse le S&P 500. Là, si on regarde, si on prend cette théorie et puis on regarde les résultats de Micron, vous aviez un consensus sur le chiffre d'affaires trimestriel qui était aux environs de 37 milliards de dollars et on se disait que c'était déjà très élevé. Ben, Micron, ils sortent avec 41 1,5 milliards d'heures, c'est plus de 6 milliards de plus qu'un consensus qui était logé très haut, comme on dit. Et surtout, c'est que Micron prévoit encore plus, il prévoit 50 milliards au prochain trimestre. Donc, on voit que les dépenses dans l'AI sont toujours soutenues, on voit qu'on est dans un cycle différent. Alors, je ne dis pas qu'on n'est pas dans un cycle, hein. Attention. On a les cycles sur les mémoires, les cycles sur les semi-conducteurs, etc. Et on est dans un cycle. À un moment, on sera au point où l'offre va rejoindre la demande. Mais là, lorsqu'on entend les dirigeants de Micron, ils nous disent que justement, au moment où on anticipe ou au moment où l'offre rejoint la demande, c'est pas 2027, c'est potentiellement jusqu'en 2028. Et donc, là, c'est un message très fort. Alors, évidemment, ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas être dans une situation où il n'y aura pas de prise de bénéfices. Ce n'est pas pour ça qu'on a vu les résultats d'NVIDIA lors du premier trimestre, c'était extraordinaire. Le titre avait perdu près de 10% lors de la publication des résultats. Pourtant, c'était exceptionnel. Et là, on est un petit peu, même si Micron monte aujourd'hui, mais ça aurait été assez bizarre si Micron avait baissé avec des résultats, surtout des perspectives qui sont aussi élevées. Alors, super cycle, oui. Et quand on parle de super cycle, et je termine là, quand on parle de super cycle, pas oublier une chose, c'est que c'est un cycle qui est plus long. Et donc, on est dans ce cas-là où normalement, on devrait anticiper une baisse de la demande ou face à une offre qui est remplie en 2027. Mais là, on parle de 2028. Donc, les anticipations de la fin de ce cycle auront lieu en 2027 et pas cette année.
Oui. Micron gagne 12% aujourd'hui. Enfin, les analystes sont passés complètement à côté. La publication, on l'attendait positive. Là, elle est 20% au-dessus des attentes des analystes. Ils sont où les analystes, là, Antoine?
Ils sont exactement au même endroit que les grands penseurs et les grands architectes de l'IA, les Sam Altman, le PDG d'Anthropic, etc.
Ils sont dépassés.
Mais qui sont incapables de vous dire où ils vont et qui changent de version sur leur dynamique du jour au lendemain, qui vous disent que ça va trop vite, qui vous disent que finalement ça va suffisamment vite, qui sont incapables de vous parler de rentabilité, qui hésitent complètement sur le prix des tokens, etc. Oui, au bout du compte, on a des industriels derrière qui disent oui, nos perspectives c'est ça compte tenu des dynamiques, et derrière on a des analystes, des grandes banques d'affaires, des grands bureaux d'analyse, ceux de JP Morgan, parmi les meilleurs du monde, qui sont obligés face aux résultats de Micron de relever de 100% leur objectif de cours sur l'action.
Ils viennent de le relever de 100%.
Oui, voilà, ils ont doublé leur objectif de cours sur l'action, alors bien au-delà des 1000 dollars désormais, il faut bien s'ajuster. Et oui, tout le monde est paumé. Paumé, ça peut être dans le bon sens, ça peut être, on voit un upside qui est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait, parce que c'est vraiment gigantesque, mais c'est dire aussi la désorientation que provoque cette émergence de ces dynamiques d'intelligence artificielle, même chez les industriels qui ont des chaînes de production, des paramètres de rentabilité, etc.
Avant la crise Lehman, les agences de notation n'avaient pas alerté sur la crise des dettes non plus à l'avance, et on disait elles étaient dans les choux, elles n'ont rien vu venir. Est-ce que là, les analystes vis-à-vis de la tech, et en positif cette fois-ci, n'ont rien vu venir? Laurent, est-ce qu'ils sont dans les choux, les analystes, vis-à-vis de la dynamique de la tech, là, quand on voit à quel point Micron dépasse les attentes? Et au premier trimestre, les résultats des acteurs de la tech aussi étaient largement au-delà des attentes aux États-Unis.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été complètement dans les choux les 12 derniers mois, parce que si vous regardez les grands hyperscalers, donc on va dire Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, et on va mettre Oracle dedans, hein, les 5 ensemble, et vous regardez ce que les analystes prévoyaient l'année dernière qu'ils allaient dépenser cette année en CAPEX, d'accord ? Donc au premier trimestre l'année dernière, ils s'attendaient à ce que ces gens-là dépensent ensemble à peu près 330 milliards cette année, 2026. Et en fait, ils vont dépenser plus de 800 milliards. Donc ils se sont trompés dans un facteur de 2 à 3. Et pour 2027, c'est pire. Ils s'attendaient à ce qu'ils dépensent 380 milliards et on va finir probablement au-dessus de 1200 milliards. Donc ce qui s'est passé, c'est que le marché est beaucoup plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. Ça exerce une pression majeure sur la chaîne d'approvisionnement qui ne peut pas s'ajuster aussi rapidement. Et c'est pour ça que des gens comme Micron arrivent à vendre leur prix de la DRAM, aujourd'hui maintenant 13 ou 14 dollars, quand ils le vendaient à 3 dollars il y a encore un an. Donc il y a eu cet effet d'un marché beaucoup plus gros que ce que les analystes imaginaient, et ça a été joué par notamment ce qu'on appelle les pièges et pioches, donc la chaîne d'approvisionnement. Et les hyperscalers, finalement, dans cette histoire, ils ont un peu tendance à sous-performer, parce que le bonheur de Micron est un peu leur malheur, c'est-à-dire que plus les prix de Micron sont chers, plus les prix du data center sont chers, plus ils doivent dépenser, et plus la question de la rentabilité s'impose à eux. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez à des experts dans l'industrie, un data center de 1 gigawatt, qui est le nouveau standard, ils essaient de faire des économies, donc un gros data center, 1 gigawatt, aujourd'hui ça vous coûte 50 milliards, vous leur demandez, mais ça coûtait combien il y a 12-18 mois? Ils vous disent, c'était entre 35 et 40, et il y a un cas de figure où ça passe à 60-70 milliards d'ici 18 mois. Parce que Micron et tous les autres montent les prix très vite. Donc la question de la rentabilité, à un moment, va arriver.
Guillaume.
Oui, et John, on vous entend, John. Allez-y, je vous laisse.
Pardon.
Je vous laisse rebondir.
Non, John, au contraire. Je voulais juste compléter ce que disait Laurent, parce que vous savez, lorsqu'on entend le patron de Nvidia, il vous dit que, par exemple, il y a le physical intelligence artificielle avec la robotique, etc., qui va dépasser tout entendement en termes de demande supplémentaire. Donc, on est dans une situation où c'est pas derrière nous. Il y a d'autres zones à explorer pour l'intelligence artificielle. Et c'est ça qui est assez fou. Et vous disiez ce qu'ils sont dans les choux, alors d'une certaine manière, mais on n'arrive pas. Et Antoine a touché vraiment là où ça fait mal, c'est que on n'en a aucune idée, mais dans le bon sens du terme. Et je reviens sur ce physical AI. Eh bien, on ne sait pas ce qui va se passer parce que ça peut potentiellement dépasser tout entendement.
Bon, Space is the limit. Alors, on va parler SpaceX dans un instant. Auparavant, on est à 9 minutes de la clôture sur les marchés européens et le CAC 40 gagne 0,5%. Un titre plus historique avec la baisse des cours du pétrole, les espoirs de fin de la guerre en Iran. On est à la fin de la guerre. En tout cas, on espère que ça va durer. Accor est sur un plus historique aujourd'hui. C'est la plus forte hausse du CAC. Hein. Le groupe hôtelier gagne 3%. On a le secteur bancaire aussi bien orienté. Puis en repli, Thales abandonne 2,5%. Je disais, on va parler SpaceX. En fait, on va parler plus largement d'introduction en bourse parce qu'ici, si aussi en Europe, il y en a des introductions en bourse, figurez-vous. Le slip français va s'introduire en bourse. Alors, c'est pas SpaceX, on est d'accord, le slip français, c'est pas non plus Anthropique, mais quand même, c'est bien français et c'est de c'est du marché action. Guillaume Gibault, le PDG fondateur du slip français, nous livrait tout à l'heure dans Good Morning Business les détails de l'introduction en bourse, donc attendu pour les premières cotations peut-être le 14 juillet. Combien compte-t-il lever grâce à cet IPO, le slip français? Eh oui, ils ont SpaceX, on a le slip français. Et puis juste après, messieurs, on bondira ensemble.
C'est une opération entre 12 et 15 millions d'euros. Il y a 5 millions d'euros d'augmentation de capital. Donc là, c'est vraiment les moyens qu'on va se donner pour accélérer sur le déploiement industriel, investir dans des machines, dans des automates, dans du recrutement, dans du personnel, dans notre usine à Aubervilliers. Et tous les Français sont les bienvenus pour venir faire la visite tous les vendredis, mais les autres jours. Voilà, à Aubervilliers, on fabrique 4500 slips par jour, 1500 t-shirts par jour. On montre que le Made in France est possible. Et l'autre partie de l'opération, c'est en fonction de l'appétit des Français. Voilà, jusqu'à ce que ça sera 5, 10, 15 au total pour aller chercher un maximum de Français au capital de l'entreprise. C'est vraiment ça qu'on souhaite. L'action est à 14,80 €. Ça démarre aujourd'hui pour une période de souscription qui va aller jusqu'au 8 juillet. Et on espère, si tout va bien, sonner la cloche le 14 juillet.
Le PDG du slip français, Guillaume Gibault, ce matin, il répondait aux questions de Laure Clouzier dans Good Morning Business. John, elle est pour vous, bien sûr, cette question. Le slip français, donc, qui va s'introduire, il y a aussi KNDS. Là, on est dans la défense. KNDS, le groupe franco-allemand, qui va s'introduire en bourse aussi à Francfort et à Paris. Enfin, on sent que la bourse attire à nouveau les entreprises, John, peut-être.
Oui, tout à fait, mais je suis très content. Mais vous savez, lorsqu'on regarde KNDS, qui est un lien entre la France et l'Allemagne, hein, qui c'est une entreprise totalement étatique, et chaque État va mettre 10% en bourse, comme vous le disiez, eh bien, on est quand même à très, très loin de ce qui se passe. Vous parliez de SpaceX, alors bon, ça, c'est l'extrême. Mais on parle d'Anthropic, d'OpenAI. Alors, je veux dire, est-ce que ça fait vraiment rêver en termes de croissance, de valeur de croissance? Est-ce que ça fait rêver d'avoir, si on parle de KNDS, d'avoir une hausse du chiffre d'affaires chaque année de 30% et une marge opérationnelle de 15%? Pas grand choix. Alors, c'est extraordinaire, hein, pour le secteur de la sécurité et de l'armement. Mais est-ce que c'est comparable avec la tech? Je reviens là-dessus, je suis désolé parce qu'on a parlé de Micron, où tous les investisseurs vont. Non, c'est plutôt, et je trouve extraordinaire qu'on ait des slips français, mais c'est plutôt des valeurs de fonds de portefeuille pour des grandes entreprises et pour ces 5 prochaines années. Donc, c'est extraordinaire, mais est-ce que c'est comparable à ce qui se passe aux États-Unis où tout le monde regarde? Eh bien, je ne suis pas sûr. C'est totalement différent.
Oui, on est bien d'accord. Puis, ce n'est pas les mêmes ampleurs de levée de fonds. Mais voilà, KNDS et le slip français. J'insiste beaucoup sur le slip français parce qu'on est dans l'industrie quand même. Un groupe qui parvient à produire en France. C'est une clé. C'est-à-dire que les auditeurs, téléspectateurs de BFM Business savent à quoi la bourse peut être utile. Et là aussi, à financer non seulement une entreprise européenne, plutôt qu'aller mettre ses capitaux dans SpaceX, financer une entreprise européenne française qui parvient à produire ici, en France, en l'occurrence. Alors, le patron du slip français dit c'est une bonne occasion, alors c'est sa communication, hein, c'est une bonne occasion de mettre vos slips en action. Oui, au sens propre, avec cette IPO, cette introduction en bourse. Comment vous regardez ça, Laurent? Est-ce qu'effectivement, ça peut inspirer les investisseurs, là?
Je pense qu'effectivement, c'est une bonne nouvelle. Le marché de l'IPO, et c'est un marché difficile depuis plusieurs années, il est beaucoup impacté par l'essor de la gestion passive, parce que typiquement, si on prend le slip français, c'est petit, donc ça ne va pas être dans les indices. Et donc, toute cette gestion passive qui est devenue colossale ne peut pas investir dans ce genre d'entreprise. Et donc, ça prive de capital. Donc, voir que va quand même y avoir de l'intérêt, ça donne un petit peu d'espoir sur ce sujet-là. Et nous, on milite depuis des années pour dire que le problème de cette gestion passive, c'est que à chaque fois qu'un Européen met un euro de plus en gestion passive dans le MSCI World, il finance à 75% les entreprises américaines et il appauvrit les entreprises européennes. Donc oui, j'espère qu'il y aura plus d'introductions en bourse de sociétés françaises et européennes.
Oui, mais déjà, il faudrait peut-être que la réglementation s'ouvre plus aux particuliers, parce que c'est François Monnier qui nous accompagnait il y a quelques jours et nous disait les IPO en France et en Europe, très peu d'IPO sont ouvertes initialement aux particuliers. Elles le deviennent ensuite, bien sûr, en bourse. Mais initialement, non. Alors que SpaceX, John, c'était ouvert dès le début aux particuliers. Est-ce que de ce point de vue, l'Europe qui se targue de vouloir faire l'union des marchés de capitaux, attirer l'épargne des Européens vers nos entreprises, est-ce que là-dessus, l'Europe ne se tire pas une balle dans le pied en les privant, les particuliers, de l'accès initial aux IPO?
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on n'attire peut-être pas des très, très grands groupes, je dirais, sans minimiser ceux qui vont venir ces prochains mois, et que si vous regardez le marché des introductions en bourse, eh bien, c'est surtout en Asie et bien évidemment aux États-Unis. Donc là, si en plus vous mettez de côté d'une certaine manière, vous empêchez les privés, eh bien, d'avoir accès à du papier, comme on dit, avant l'introduction en bourse, eh bien, c'est effectivement, vous tirez une balle dans le pied, puis vous rendez pas la place boursière très sexy, si je peux me permettre, pour ceux qui voudraient eh bien, essayer de rentrer dans une valeur, essayer non pas simplement d'avoir une progression le jour J et de vendre la valeur, mais aussi de se dire que bien, on investit sur du slip parce que il y a une croissance qui est une belle croissance sur laquelle je vais pouvoir parier l'année prochaine. Bien là, il va falloir attendre l'introduction en bourse et puis après voir quelle est la réaction lors de l'introduction en bourse, etc., etc. Donc c'est ouais. Ça va un peu à l'encontre d'une certaine logique de démocratiser,
c'est ça.
Eh bien ceux qui peuvent participer aux introductions en bourse.
Wall Street, en ce moment, il est 11h33 à New York. Wall Street est en petite hausse, le S&P gagne 0,3, mais pas le Nasdaq. On a expliqué les raisons il y a quelques minutes, moins 0,3 le Nasdaq, parce qu'en plus, les coûts, enfin les prix des cartes mémoire qui augmentent, qui profitent à Micron, ben, tout ça, c'est les coûts des hyperscalers. Du coup, les hyperscalers, eux, sont en baisse en ce moment. Et puis à Paris, le CAC gagne 0,5 à quelques minutes de la clôture. On la vivra ensemble, cette clôture. Bougez pas, hein, dans un instant, dans 3 minutes, avec nos experts. Juste, je m'en veux, on n'a pas parlé des banques américaines. C'est important de savoir comment elles vont pour mesurer la résilience possible en cas de crise économique du système financier. Eh bien, les banques américaines, Laurent, ont passé un stress test. Alors, un stress test assez dur, hein. La Fed a testé 32 grandes banques américaines dans un scénario de récession assez violente qui ferait monter le chômage à 10% et entraînerait l'immobilier en forte baisse. Eh bien, la plupart des 32 banques passent allègrement ces stress tests et resteraient au-dessus de leurs exigences minimales de capital. C'est une super bonne nouvelle ou c'est la garantie de rien pour la suite, Laurent ?
Non, je pense que c'est une bonne nouvelle. Après, est-ce que c'est surprenant? Je pense pas tant que ça, parce que faut pas oublier que post-crise 2008, ces banques, pendant 10 ans, n'ont pas versé de dividendes parce qu'elles devaient reconstituer leurs fonds propres. Hein. Elles ont souvent des fonds propres qui sont 3 fois plus gros que ce qu'ils n'étaient pendant la crise de 2008. Donc, c'est sûr que le système financier, toute chose égale par ailleurs, est beaucoup plus robuste aujourd'hui qu'à l'époque. Après, on voit qu'il y a des sujets de fragilité, hein, notamment tout ce qui est crédit privé. Chaque jour, on voit des fonds qui sont obligés de suspendre les rachats. Donc, il y a des vrais sujets de ce côté-là. Mais manifestement, le sujet n'est pas d'assez grande ampleur pour inquiéter le régulateur de ces banques-là.
John.
Et la deuxième nouvelle que ça pourrait faire derrière, hein, c'est le second coup de billard, c'est que ça permettra peut-être, ce qui est un petit peu, à mon avis, l'idée de la Fed, d'accélérer la déréglementation des banques pour libérer plus de crédit.
Mmh. Ah oui, d'accord. Donc ça pourrait avoir l'effet pervers de... Ouais, ouais,
vous avez vu que Kevin Warsh, au-delà de ce qu'il a dit, il a aussi lancé des chantiers. Et il a notamment lancé un chantier sur la réduction du bilan de la Fed. Et le problème de réduire le bilan de la Fed, c'est que ça réduit les réserves des banques et ça crée du stress, comme on l'a vu il y a quelques temps. Et donc, derrière, il commence à y avoir des pourparlers sur comment on pourrait faire en sorte que les banques aient moins besoin de réserves et du coup, elles puissent prêter plus. Donc, je pense que ça sera un des thèmes des prochains trimestres. Et le fait que le stress test se soit très bien passé va dans ce sens-là.
Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Laurent Schauders pour BDL Capital et un grand merci aussi à John Plassard pour Cité Gestion, que vous retrouvez tous les jours à 15h30 à l'ouverture de Wall Street à nos côtés. Merci. Dans un instant, la clôture des marchés avec Antoine sur BFM Business. À tout de suite.
BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris.
Avec Antoine Roux, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
Comment termine-t-on ce soir ?
À Paris, on termine bien. Plus 0,55%, 8431 points, malgré beaucoup de volatilité sur la tech. Mais ça se termine bien. On a fait le yo-yo. Les cadors des semi-conducteurs ont quand même bien terminé sur une tendance beaucoup plus saine. Plus 0,59% pour l'Euronext Tech Leaders. On est quand même un ton en dessous de l'Eurostock 50 qui grimpe quand même de 0,85% en clôture et plus 1% pour la bourse de Francfort. Malgré tout, bon, on le voit, ST Microelectronics a terminé dans le vert. Plus 2,68% à 65,06€ malgré un énorme trou d'air du côté de Wall Street tout à l'heure. Un petit peu inexpliqué, sans doute beaucoup de technique là-dessous. Ce sont des valeurs un petit peu plus défensives qui ont signé l'essentiel des hausses sur le CAC 40. Accor termine plus forte hausse, hein, plus 3,16 à 51,62€. On est sur de nouveaux plus hauts historiques. Société Générale plus 2,84 à 78,18€. Et puis Saint-Gobain plus 2,40, 81,76€. À la baisse, le secteur de la défense était plutôt vendu aujourd'hui, notamment Thales, hein, moins 3%, 218,40€. L'automobile, Renault moins 1,5 à 26,21. Publicis moins 1,70 à 86,58. Eutelsat termine plus forte baisse du SBF 120 à moins 6,9% 2,16. Soitech, plus forte hausse hein, de l'indice large, plus 4,6% à 112,25€. Hein, beaucoup d'amplitude encore une fois sur les semi-conducteurs, même en Europe. À noter l'euro qui s'est bien installé sous 1,14 à 1,1384. Un coup de mou très marqué sur le Bitcoin. Apparemment, il est question d'expiration d'options qui explique ces mouvements techniques et donc le décrochage du Bitcoin sous les 60 000 $. On est à 59 139 à l'instant et on reste sur des cours qui se tendent un petit peu du côté du pétrole. 74,82 pour le Brent et 71,41 pour le brut léger américain.
Vous savez quoi, Romain Dobry est là. Il est avec nous ici en plateau aujourd'hui,
oui,
pour ce direct.
Oui.
Ça va, Romain ?
Ça va bien.
On est content de vous accueillir là.
Moi aussi, je suis ravi d'être là. En plus, il fait très bon.
Oui, il y a Renaud Ramet aussi qui est là pour Tipolo. Bonsoir, Renaud.
Bonsoir.
Bon, d'un point de vue graphique, Romain, avant dans un instant de refaire la séance tous ensemble, d'un point de vue graphique, comment vous la sentez ? Quel signal envoie cette clôture aujourd'hui ?
C'est du léger mieux à Paris. On est toujours calé entre nos deux gaps. Hein, le gap ouvert il y a 15 jours au-delà des 8300 points et calé sous le gap baissier du 2 mars dernier à 8500 points. Donc on est un peu au-delà de la médiane. C'est un léger mieux. Il faut dire que sur l'indice Eurostoxx, on a des petits signes de fragilité. On préserve pour l'instant un niveau clé qui sont les 6200 points. Attention, sous ce niveau-là, on pourrait accélérer à la baisse et valider un mouvement de consolidation un peu marqué de l'ordre de 4-5% après un rallye qui a été un peu plus important sur l'indice Eurostoxx. Il faut pour invalider ce mouvement se réinstaller au-delà des 6280 points. Donc un marché qui est un peu en balance à l'entame d'une nouvelle échéance technique trimestrielle sur les marchés dérivés. Beaucoup d'intérêt n'a pas été reconduit, ça laisse une page un peu vierge. On voit que du côté des marchés américains, il y a beaucoup de volatilité et des mouvements de dégagement qui ont été un peu marqués sur quelques techs américaines avant les publications de Micron. Toujours de la volatilité. Pour l'instant, c'est stable, mais attention.
Parce que c'est vrai que Micron publie incroyable publication, le titre gagne 12%, mais justement, le prix des cartes mémoire augmente. Qui les paye, les cartes mémoire, entre autres les hyperscalers? Enfin, ça se répercute dans les prix quand même, tout cela. Et bien, du coup, les hyperscalers qui vont devoir payer un peu, ils le savent, hein, ils ne découvrent pas, ben, sont en baisse aujourd'hui, en baisse, du fait de cette super publie liée à la hausse des prix que pratiquent les acteurs des cartes mémoire. Cette belle publie de Micron pèse sur les hyperscalers, tous en repli d'1 à 2% en ce moment, alors que Micron en gagne 12. On en parle avec nos experts. On est ensemble, c'est BFM Bourse pour encore une grosse dizaine de minutes.
BFM Bourse, on refait la séance.
Ah, Renaud Ramet est avec nous, donc Tipolo. Ça va, Renaud, bienvenue.
Très bien.
Et Aymeric Lang aussi, qui a répondu à l'appel urgent tout à l'heure de BFM Business. Salut Aymeric.
Salut Guillaume.
Merci d'avoir répondu à notre appel et d'être présent, disponible à nos côtés, Erasmus Gestion. Bon, on est bien, on est content, enfin on est content. On pensait quand même que le Nasdaq progresserait avec cette superbe publication de Micron. Ça n'est pas le cas parce que les hyperscalers ont basculé dans le rouge. Ça s'est traduit aussi sur les acteurs européens et français des semi-conducteurs. Vers 16h, Renaud, je ne sais pas si vous avez vu ce mouvement, STM gagnait 4. Et alors à 16h, on est passé de plus 4 à moins 0,2 d'un coup. Et finalement, plus 2 en clôture. Comment vous regardez ce genre de mouvement là?
Oui, ben, en fait, on sent un marché qui, bon, alors, qui a tiré très fort sur ces thématiques et qui est mûr déjà depuis quelques jours, quelques temps sur la recherche de relais. Donc, à parler d'STM et d'Infineon, ça c'est quand même un trade, comme on dit dans le jargon, qui avait été poussé très très fort. Mais il y a d'autres relais et on sent derrière un marché capable d'aller également chercher des titres qui sont, qui sont également très, très forts et très puissants depuis le début de l'année, mais un petit peu en seconde catégorie. Et on avait quand même du ASML qui se comportait très bien, ou également du BESI. Donc ça, c'est deux acteurs qu'on apprécie assez fortement de par leur positionnement. Et ça, ce sont des idées potentielles de relais qui sont légèrement en décalé. C'est pas de l'IA à pur, mais une société comme ASML, en fait, c'est bon, qui a évidemment un monopole sur le métier, a véhiculé ces derniers temps des quelques éléments nouveaux et qui sont intéressants en termes de communication sur notamment la capacité à peut-être activer des hausses de prix alors que c'est un des seuls acteurs qui historiquement ne le fait pas. C'était un peu quelque chose de différent par rapport à des acteurs américains. Et puis également une tonalité plus positive et un changement un petit peu de phrase du CEO qui a été plus constructif sur la capacité d'augmenter cette capacité de machine par an. Donc ça, c'est des éléments positifs qui nous font être constructeurs et voir que le marché peut jouer ces thèmes-là et un petit peu en décalé. Voilà.
ASML, et quitte à jouer la thématique aussi autour des semi-conducteurs, vous citiez BESI.
BESI semi-conducteur également. Oui. On est plus dans, pareil, dans la taille, enfin c'est déjà une grosse mid-cap. Hein. C'était une mid-cap, mais qui est devenue très, très grande. C'est un spécialiste de l'hybride bonding. Et c'est surtout dans ce secteur, donc ce qu'on appelle des semi-caps. ce que Mika pour bien d'équipement pour semi. Voilà, on voit que c'est pas le thème direct de l'IA. Ils y sont, ils peuvent jouer ce thème indirectement par justement cette thématique de l'hybrid bonding. Et c'est l'acteur qui a la plus forte croissance à embarquer, cumulée à 40% de croissance annualisée d'ici 2030. Ils ont fait une très belle journée investisseur dans laquelle ils ont été capables à la fois de rehausser croissance et marge. Et ils sont sur cette thématique, ce qu'on joue le marché, c'est un peu cette validation de cette technologie pour la thématique de la mémoire, voilà, qui, elle, est liée à l'IA. Donc, il y a une amélioration du mix, parce qu'ils sont également très bien positionnés sur ce qu'on appelle le packaging avancé. Hein. Ça, c'est leur métier historique. Mmh. Ils montent en gamme. Ils sont également positionnés. Plus ils sont positionnés en valeur ajoutée, et plus ils ont part de marché. Donc, voilà, il y avait c'est des éléments qui peuvent prendre un petit peu le relais, qui sont très bien positionnés.
Oui, Romain, donc Bézi, vous aimez bien Renault et ASML, beaucoup plus connu bien sûr. Ce titre ASML, on l'aime tous, hein, c'est la plus grosse capi européenne, c'est notre ambassadeur dans le monde européen dans la tech, quoi. Sauf que ça vaut en capi moins de 700 milliards de dollars. C'est un petit, c'est pas un nain, mais enfin par rapport aux Américains, par rapport à Micron par exemple, c'est un nain. Enfin, c'est ça qui est fou, quoi. Et pourtant, c'est notre champion européen de la tech. Comment vous le voyez, ce titre ASML, Romain, d'un point de vue graphique?
Graphiquement, il faut qu'on intègre ce niveau de 1632 précisément. Pourquoi ? Parce que si on clôture en dessous, on va valider ce qu'on appelle un avalement baissier, c'est-à-dire que la bougie de la semaine engloberait la bougie de la semaine précédente. Oui. Ce n'est pas un bon message graphique tout en haut de marché. Ça ne peut être qu'un message de pause dans la tendance, mais on l'a vu, hein, du côté de ce secteur, il y a un petit coup d'arrêt depuis quelques heures et un peu de prise de bénéfice. On a eu un gap baissier dans la semaine. Oui. Pour l'instant, on se réinstalle à l'intérieur, mais 1632 à réintégrer. On pourrait consolider, il n'y a pas de retournement de tendance tant qu'on est au-delà de 1398.
Emeric, comment vous regardez ces mouvements? Donc dans la tech, ça délivre encore. Hein. Micron surprend tout le monde, l'ampleur de sa publication, c'est fou. Il publie 20% au-dessus des attentes. Le titre progresse encore ce soir de 12%. Mais on voit que le reste de la tech est plutôt en baisse. Il y a des velléités hein, quand même de respirer, de peut-être alors passer à autre chose, c'est un grand mot, mais un petit peu rééquilibrer certains portefeuilles. Comment vous voyez ces mouvements? Et par exemple, STM qui gagnait 4%, hein, d'un seul coup, là, en milieu d'après-midi, s'est mis à perdre 0,2 avant de regagner 2%.
Oui, c'est sûr qu'on rentre dans une phase assez intéressante boursièrement parce qu'on sent un peu de fébrilité très claire sur les acteurs qui ont extrêmement bien performé. Micron, la publication est excellente, mais vous l'avez dit, 20% de mieux que les attentes et finalement une hausse que entre guillemets de 12% qui est très satisfaisante, mais qui reflète pas finalement la qualité des résultats. Ce qui ressort quand même, ce que je trouve un petit peu négatif sur la publication, c'est les besoins de capex hein, mécaniques, mais qui sont une nouvelle fois très élevés et qui posent des questions potentielles sur les générations de la génération de trésorerie à venir. Donc voilà, nous ce qui nous paraît aussi intéressant, c'est de regarder cette thématique à travers le prisme des small caps. Alors vous disiez qu'ASML était un nain par rapport à Micron. Là, je vais vous parler de sociétés bien plus petites comme Elmos Semiconductor par exemple sur les Sony Auto qui fait 4 milliards d'euros de capitalisation mais qui a des chiffres absolument incroyables par rapport à Infineon, plus de croissance, plus de marge, plus de retour sur capital employé et qui se traite deux fois moins cher. Donc il y a aussi des choses à aller chercher assez intéressante sur les small caps sur cette thématique.
Bon, je voudrais qu'on évoque aussi une valeur européenne qui fait presque aussi bien que Micron aujourd'hui. Ce titre, il progresse actuellement en clôture, il a progressé de 7%. C'est EasyJet. Encore une offre, une quatrième offre de Castle Lake sur EasyJet. Décidément, Castle Lake a envie d'acquérir EasyJet. Et une nouvelle fois, EasyJet rejette l'offre de Castle Lake. Le titre EasyJet gagne ce soir 7% à la clôture, Emeric. Est-ce que ce dossier EasyJet aiguise aussi votre appétit? Est-ce que vous avez envie de le renforcer dans les portefeuilles compte tenu de l'appétit de Castle Lake?
C'est pas un titre qu'on détient, mais effectivement la prime spéculative est là et a du sens parce que c'est un titre qui a quand même pas mal souffert en début d'année et donc qui se traite sur des niveaux qui peuvent paraître intéressants avec un potentiel qui reste attractif sur le moyen long terme. Nous, c'est pas un titre qu'on détient parce qu'on n'aime pas le secteur, mais c'est clair que c'est une prime spéculative qui va à mon avis se maintenir dans les prochains jours parce que c'est pas terminé selon moi.
Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup de en ce moment en Europe. Hein, beaucoup de groupes qui font l'objet d'offres. C'est le cas donc d'EasyJet qui rejette une quatrième fois une offre. On a Edenred voilà, qui pourrait peut-être finir par sortir de la cote du coup. Pierre et Vacances aussi, une offre d'un fonds d'Abu Dhabi. Ça s'enchaîne quand même, Renaud. Là. Et, une thématique, cette thématique acquisition, consolidation, opération spéciale M&A, elle est en train de monter en puissance et il faut essayer de trouver les proies dans le marché, dans les marchés européens là désormais.
Ouais, bah il y en a toujours eu. Puis alors, j'aurais tendance à dire plus vous descendez en capi, plus il y a de belles occasions parce que quand même il y a toujours un peu une décote de valorisation. Donc le gisement un peu européen et aussi spécialement français sur les petites et moyennes valeurs. Là, après, et tout est aussi une question de valorisation. Edenred était très déprécié, donc il y avait quand même un mouvement possible de re-rating. Ensuite, vous parliez de prêts et vacances. Là, l'offre paraît assez peu généreuse, donc elle était assez attendue, donc elle avait été probablement jouée préalablement. Donc oui, ça reste un vivier intéressant. Deux, on peut pas toutes les avoir, donc faut quand même trouver. Mais là, je rejoindrai peut-être un peu ce que disait Aymeric. On s'éloigne nous quand même aussi chez Tiepolo, pas forcément. On va d'abord, c'est la cerise sur le gâteau, hein, le M&A, jamais oublié. On va pas forcément chercher à cibler ça. Et typiquement sur le secteur aérien, ben voilà, c'est un secteur sur lequel on n'est pas des grands aficionados, donc voilà, on n'est pas sur tous les coups, on peut laisser passer. Mais si le secteur est compliqué, voilà.
Ouais. Et vous, Aymeric, vous voyez quelle proie potentielle en Europe si ce mouvement de fusion-acquisition, consolidation se confirme ?
Alors, il y a eu des rumeurs sur Edenred, vous l'avez dit. Il y a eu aussi des rumeurs sur Besi, on en parlait tout à l'heure, avec des acteurs comme ASML, justement, qui pourraient être intéressés. Il y a une autre société, pour le coup, une micro-cap, parce que là, on a moins de 5 millions d'euros, qui me paraît être intéressant. C'est Dilendi, qui est dans l'univers des panels, dans la recherche marché, qui est vraiment dans un secteur où il y a beaucoup de consolidation, qui traite sur des multiples de valorisation très dépréciés, avec de la croissance. Donc, ça pourrait être une cible. Donc, voilà, après, comme l'a dit Renaud, il y a beaucoup de cibles potentielles dans les small et mid-cap, mais il y a des belles opportunités pour les fonds de private equity notamment, parce que les valorisations sont très faibles.
OVH, il faut qu'on parle d'OVH. Aymeric, ce titre OVH ce soir lâche 16% après sa publication. Alors qu'est-ce qui cloche? OVH pour la suite confirme ses objectifs, la croissance organique au troisième trimestre de son exercice, la croissance organique a atteint quasiment 7%, le titre perd 16%. Là. Qu'est-ce que sanctionnent les marchés aujourd'hui?
Alors déjà, je pense qu'il y a une publication qui est au-dessus des attentes, vous l'avez dit. Je pense qu'il y a une respiration qui est assez logique. Le titre avait pris 120% depuis le début de l'année, tiré avant tout par l'augmentation des multiples de valorisation. On est à 14 fois les bénéfices en début d'année, on est à plus de 30 fois aujourd'hui. Donc une respiration s'impose. Mais d'un point de vue opérationnel, ce que je retiens aussi, c'est que ok, le cloud public fonctionne bien. On est à plus de 20% de croissance sur le trimestre, mais sur le cloud privé, il y a une nouvelle déception et ça reste la majorité du CA. Du chiffre d'affaires et ça fait que plus 4%. Donc ça, c'est quand même une croissance qui est plus limitée. Et enfin, surtout, ce que je retiens, on parlait de mémoire tout à l'heure, le prix de la mémoire pourrait être multiplié par 9 en septembre. Donc la question, c'est est-ce que OVH va avoir la capacité de passer toute cette hausse de prix à ses clients? Rien n'est moins sûr. Donc je pense que la consolidation vient aussi un peu de là aujourd'hui.
Moins 16 ce soir, Romain, c'est quand même violent sur OVH. Graphiquement, quel potentiel du coup? Est-ce que c'est un point d'entrée ou pas?
Le point d'entrée, il se trouverait à peu près à 12,40. C'est un niveau à préserver absolument pour le titre, au risque d'invalider sa tendance haussière. Il faut dire que la baisse s'est faite avec un volume relativement modéré pour le contenu du mouvement. Donc pour l'instant, consolidation, mais consolidation assez marquée. Donc 12,40 à préserver.
Le CAC ce soir, on vous le rappelle, a gagné 0,5%. Cette question de l'un d'entre vous, il s'appelle Maxou sur le Félix BFM Bourse. Voici sa question. Le pétrole est en baisse. C'est vrai, on est passé d'ailleurs sur les cours du pétrole tout à l'heure sur des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis le début de cette guerre. On a retrouvé les niveaux du pétrole d'avant-guerre, figurez-vous. Et donc Maxou nous demande... Quels acteurs, malgré tout, privilégiés dans le secteur énergétique avec cette baisse des cours du pétrole, dans la mesure où il faudra bien reconstruire les infrastructures qui ont été bombardées dans la région du Golfe? Donc, quelles valeurs et quels acteurs pourraient accompagner ce mouvement de reconstruction et en profiter aussi en bourse, Renaud?
Alors, on va penser assez facilement en fait à Technip Énergie. Donc, du coup, c'est un peu en décalé. Hein. C'est pas tellement une histoire pétrolière. Là, on parle plutôt de gaz et de GNL et d'un acteur français leader mondial, fortement exposé au Moyen-Orient. Et donc, certaines des installations pour lesquelles il travaillait, hein, dont Qatar Énergie, avaient été attaquées assez rapidement lors du début du conflit. Et donc, il se trouve qu'aujourd'hui, voilà, on sort un petit peu de ce conflit iranien et qu'il y a déjà les premières estimations qui apparaissent, comme le coût de réparation des infrastructures pétrolières et gazières pourraient se monter à 40 milliards de dollars, donc c'est extrêmement important, dont la moitié pour être dédiée en fait aux sociétés d'ingénierie et de construction. Et c'est là où Technip Énergie est très fort, hein, historiquement, c'est leur métier historique, et ils discutent en fait déjà avec leurs clients actuellement, à Qatar Énergie, pour reconstruire en fait ces trains de liquéfaction, ces deux trains de liquéfaction qui ont été endommagés. Alors on apprend récemment que ça peut prendre un peu plus de temps, il y a de la négociation, puisque historiquement c'était dit des projets clé en main, sur lequel Technip Énergie, c'était peut-être un petit peu plus risqué. Là, une partie de la négociation vise à ce qu'on appelle à passer à des contrats dits cost plus, c'est-à-dire pouvoir répercuter les hausses des prix, parce qu'il y a aussi un phénomène d'inflation. Ça, je veux dire, Technip Énergie, c'est fait. Et puis, c'est un acteur qui est extrêmement rassurant, avec une très bonne gouvernance. C'est un des acteurs qui a communiqué le plus tôt possible dans cette crise. Alors, ils avaient mis des guidance, des prévisions qui étaient un petit peu un peu challenging, parce qu'il fallait que justement cette crise au Moyen-Orient se résolve avant fin juin, ce qui est le cas, donc plutôt voilà. Mais retenir qu'elle est aussi un peu embarquée dans toute cette thématique pétrole qui est en recul, donc le marché a toujours un petit peu de mal à la jouer, mais en tout cas il faut absolument penser à Technip Énergie dans ce cadre-là.
Bon, Technip Énergie, Romain, vous la suivez aussi graphiquement, c'est bien?
Oui, effectivement, on voit l'embarquement dans la baisse du pétrole récent. Oui. Le support à 34,02 peut être un point d'entrée si on est positif sur le titre. Pour l'instant, on n'a pas de signal d'achat.
Et puis, Aymeric, il y a quand même une bonne nouvelle en ce moment en Europe. On voit, c'est vrai, peut-être des fusions-acquisitions amenées à se multiplier. Il y a des signaux, en tout cas. Et parallèlement aussi, les introductions en bourse. KNDS, le géant, l'acteur franco-allemand, les canons César, par exemple, les chars Léopard 2, c'est KNDS. Et bien, cet acteur compte s'introduire en bourse sur les deux marchés, d'ailleurs, Paris et Francfort. Et puis, on a appris aujourd'hui une autre introduction en bourse, une autre IPO à venir. Celle, alors, c'est moins stratégique, hein, mais c'est tout aussi utile, du slip français. Et le slip français compte s'introduire et les premières cotations sont prévues, a priori, le 14 juillet. Bien joué pour la date. Emery, comment vous regardez ces annonces-là? C'est bien sûr une bonne nouvelle sur l'attrait des marchés, mais ça fait un peu petit joueur quand même comparé à SpaceX pour les Américains. Comment vous regardez en tout cas vous ces annonces en tant qu'investisseur et puis peut-être investisseur amené à investir dans ces valeurs-là, KNDS ou encore le slip français? Peut-être que vous êtes déjà séduit d'ailleurs.
C'est certain que c'est petit par rapport au marché américain, mais il faut le voir de façon assez positive. On a vraiment eu une véritable traversée du désert en France et en Europe plus largement sur les introductions en bourse. Après aussi, il faut le reconnaître, beaucoup d'abus. Il y a eu beaucoup d'introductions dans la fin des années 2010 qui ont été faites sur des multiples de valorisation très élevés. On trouve que c'est plutôt positif, notamment que des belles sociétés comme KNDS souhaitent venir en bourse de façon complètement secondaire. Hein. Il n'y a pas de levée de fonds dans ces cadres-là. On trouve ça assez positif et nous, c'est un dossier qui pourrait nous intéresser effectivement en fonction de la valorisation. Après, le timing est un petit peu compliqué parce que le secteur de l'armement, vous l'avez dit tout à l'heure, recule beaucoup, mais c'est un dossier qui nous paraît intéressant. Et concernant le site français, bon là, c'est une taille encore plus petite. On parle d'une capitalisation de l'ordre de 20 millions d'euros à une fois le chiffre d'affaires. C'est une société qui a été en restructuration assez forte, mais qui semble porter ses fruits. Donc, il y a eu un beau redressement avec pas mal de générations de trésorerie récemment, donc moins d'informations sur ce dossier-là, donc je vous avoue que on va pas s'y intéresser, mais c'est intéressant en tout cas.
On en aura parlé, le SIF français en bourse, et puis une belle opération de communication aussi. Merci beaucoup à tous de nous avoir accompagnés, Aymeric Lang, Erasmus Gestion, Renaud Ramette pour Tiepolo et Romain Daubry pour Zerec qui était avec nous en plateau. Le CAC ce soir gagne 0,5%, Antoine bien sûr dans un instant pour le débrief, aux côtés d'Edwige Chevrillon pour le 18-19. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.